bien sûr Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui s'est déroulée hier le 25 novembre, je suis avec Laurie Travers, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Calvados. Bonjour Laurie Travers.
Bonjour.
Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes prend racine en 1999 dans la reconnaissance de la lutte des trois sœurs, Patria, Minerva et Maria Teresa, pour la liberté en République dominicaine. Elles ont été assassinées en 1960 par le gouvernement en place. On a fait du chemin dans la reconnaissance des différentes violences que subissent les femmes depuis la création de cette journée, Laurie Travers.
Oui. Oui, on a fait du chemin. Alors si je peux parler de la France et du Calvados en particulier, notamment avec le Grenelle de 2019 sur la lutte contre les violences conjugales qui nous a permis de développer beaucoup de dispositifs et d'aide pour les victimes et pour la reconnaissance de leur statut de victime et des violences qu'elles subissent.
Les violences ne sont pas que physiques et psychologiques, elles sont aussi économiques. Selon l'IFOP, pour le média Les Glorieuses, à l'automne 2023, 41% des femmes disent avoir été confrontées à cette violence financière, avec pour 99% de ces cas une association avec une autre violence conjugale. Alors comment se traduit cette violence économique au sein des couples ?
Alors elle se traduit par la dépendance totale de la victime vis-à-vis de son conjoint auteur de violence, qui la prive de tous ses moyens d'indépendance économique. Elle ne va pas avoir accès à ses comptes bancaires, pas de carte bleue, pas de capacité de faire des achats par elle-même, et souvent elles n'ont même plus connaissance du montant de leur salaire, par exemple.
Et ça continue même au-delà, après la séparation donc, comment ?
Alors, ça dépend de la situation conjugale, mais c'est vrai que, par exemple, en cas de mariage et de solidarité de certains dispositifs fiscaux, par exemple, elles vont avoir du mal à se défaire administrativement de la situation. Et donc, c'est en ça qu'on travaille pour leur permettre de retrouver leur indépendance aussi avec le Trésor public et les finances publiques.
Que c'est des situations qui peuvent durer des années aussi.
Oui. Oui, parce que la situation conjugale avec la solidarité financière, de logement, la garde des enfants, ça c'est une solidarité du couple qui va perdurer si on fait pas les démarches assez rapidement une fois la situation de violence signalée, et qui peuvent maintenir la victime dans sa situation de violence et l'empêcher de partir au plus vite.
Donc ça fait écho à un manque d'autonomie financière pour beaucoup de femmes, comme on vient de le préciser, que ce soit au niveau des revenus et de la possession de comptes bancaires. Quand le mari part, ou même que la femme part, c'est très souvent, pour ne pas dire toujours, les femmes qui trinquent. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que la majorité, l'essentiel des situations fait que les victimes sont poussées à partir, à quitter le domicile conjugal et à faire toutes leurs démarches avec un accompagnement, bien sûr, pour se défaire de la situation de violence en premier lieu, donc avec une mise à l'abri, une mise en sécurité, une prise en charge pour des soins. Mais après, il y a toute la suite, parce qu'une fois qu'on est extrait de la situation de violence en elle-même, il y a énormément de choses à faire derrière, et ça peut sembler être une montagne aussi pour les victimes, parce qu'elles se rendent compte, une fois mises à l'abri, de tout ce qu'elles vont avoir à faire pour retrouver leur indépendance, puisque la situation de violence conjugale, c'est vraiment une situation de dépendance totale de la victime vis-à-vis de son auteur, et retrouver cette indépendance dans les gestes du quotidien déjà, et puis dans la reconstruction de sa vie quotidienne en tant que citoyenne et personne humaine, ça peut être très long et très compliqué. Donc il faut qu'on les accompagne dans ces démarches-là qui peuvent être longues. Et donc on va avoir toute la déconstruction du lien conjugal qui était reconnu auparavant par le droit, par la société, et reconnaître la victime en tant que personne indépendante ensuite, et donc retrouver son indépendance économique, son indépendance en matière d'accès aux droits, santé, sociaux, et aussi réorganiser tout ce qui est garde des enfants, s'il y a des enfants.
Nous allons reprendre l'interview avec Laurie Travers, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Calvados, après un court instant musical. On écoute Disputa de Rosalía.
Yo que tanto te cambié. Thank you.
C'était Disputa de Rosalia sur Radio Phoenix. Vous écoutez La Méridienne et tout de suite, nous étions avec Laurie Travers, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Calvados, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'est déroulée hier, le 25 novembre. Nous abordions donc pour l'occasion les difficultés que provoque la violence économique au sein des relations conjugales. Laurie Travers, vous êtes venue pour nous présenter également un dispositif mis en place par la Direction générale des finances publiques, qui accompagnerait la gestion financière des personnes victimes de violences conjugales. C'est comme ça que vous le présenteriez ?
Oui, alors c'est un dispositif qui a été expérimenté dans le Calvados et qui est étendu maintenant à tout le territoire national. Et c'était sur les conséquences fiscales d'une séparation, parce qu'on parlait de violence économique et on peut aussi parler de violence institutionnelle, en fait, quand on maintient deux personnes sous le même toit ou sous le même régime fiscal, alors qu'il y a eu une situation de violence. Et donc on a travaillé dessus avec la Direction générale des finances publiques. Et ça permet aux personnes de signaler dans les 60 jours de leur séparation à l'agent des impôts en charge de leur dossier, donc le service des impôts local de là où la personne réside. Et d'informer de cette séparation, ça permet justement au service de signaler la situation et de tout de suite désolidariser les personnes, et notamment d'adapter l'impôt en temps réel, puisque quand on est solidaire fiscalement, on paye les impôts ensemble, et donc les impôts sont déterminés par rapport aux revenus des deux personnes. Et donc une victime qui souhaite se désolidariser de son conjoint, justement parce qu'elle est victime et qu'elle souhaite retrouver son indépendance dont on parlait plus tôt, de se retrouver contrainte à payer des impôts auxquels elle n'est pas assujettie, ça constitue une violence institutionnelle. Et le dispositif, il permet aussi notamment de sécuriser les nouvelles adresses et les nouvelles données des victimes qui sont parties de leur domicile conjugal et qui reconstruisent leur vie ailleurs et qui souhaitent... être préservé de contact avec, ou même si une interdiction de contact est prononcée par exemple judiciairement, ça permet d'organiser tout ça et donc d'interdire l'accès aux nouvelles coordonnées de la victime par l'auteur qui serait potentiellement encore associé au même dossier fiscal.
Il y aura aussi des actions de communication ciblées. Qu'est-ce qu'elles seront, ces actions de communication ?
Sur le dispositif ?
Exactement.
Alors, on a commencé, on a organisé un webinaire avec la Direction départementale des finances publiques du Calvados à destination des professionnels qui sont en première ligne avec les victimes, donc les travailleurs sociaux, la CAF, le conseil départemental. On va renouveler ce type d'action webinaire parce que ça nous permet d'expliquer en direct aux personnes tout en organisant une visio, donc on peut avoir beaucoup de monde, surtout le département présent. Et donc, on va le présenter à tous les professionnels de terrain qui sont en contact avec les victimes et qui peuvent présenter ça aux victimes dans le temps aussi de la prise en charge qui correspond à ce type de démarche, puisqu'on ne va pas bombarder la victime aux urgences d'informations sur leurs impôts. Ça n'aurait pas de sens. Mais le but, c'est d'informer continuellement. Donc, on le fait via un webinaire, via aussi des actions de communication institutionnelle qui partent de la préfecture et de la Direction départementale des finances publiques.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens mis en vigueur avec ce dispositif qu'on aurait oublié de mentionner ?
Bah, il y a tous les dispositifs existants qui vont de la prise en charge par les forces de l'ordre, les urgences, à l'accompagnement des associations au quotidien. Et d'ailleurs, ces professionnels m'expliquaient hier, dans le cadre du 25 novembre, de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qu'ils constatent maintenant que tout professionnel confondu a affaire à au moins une victime par jour, dans le cadre de ces fonctions qui vont être plus larges que l'aide aux victimes. Et donc, que ce soit les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre, les médecins, ils nous expliquaient hier avec le préfet qu'ils sont confrontés maintenant avec la libération de la parole et peut-être aussi une augmentation des violences, on ne peut pas encore le quantifier, mais ils sont confrontés à au moins une victime par jour.
Donc vous faites ce dispositif expérimental dans le Calvados, si j'ai bien compris. Est-ce que vous savez s'il est testé également dans d'autres départements ?
Alors, il y avait une dizaine de départements qui étaient en expérimentation. Et au vu du succès de la mise en œuvre, c'est étendu à tout le territoire national. Donc, c'est effectif partout en France.
Et donc, pourquoi le Calvados a été propice justement initialement à cette expérimentation ?
Alors, je pense que c'est une démarche de la part de la direction départementale du Calvados qui s'est positionnée pour être parmi les pilotes. Et donc, la candidature a été retenue.
Vous faites partie de la DDFE, donc Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Est-ce que vous pouvez présenter l'organisme pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ?
Oui, alors on est un ou une déléguée par département en France, donc on est 101 au total avec les départements d'outre-mer. On est un réseau dit déconcentré des services de l'État, donc on répond à la politique du gouvernement en matière d'égalité femmes-hommes, qu'on doit mettre en œuvre au niveau départemental et qui correspond à quatre axes principaux que sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion de l'égalité professionnelle et de la mixité des métiers, la culture de l'égalité aussi des plus jeunes aux plus vieux, donc avec la déconstruction des stéréotypes de genre et donc promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et travailler sur l'accès à la santé des femmes, et notamment on travaille beaucoup avec la médecine sur les pathologies féminines comme l'endométriose et le cancer du sein par exemple.
Et sur le terrain, comment ça se traduit justement ces actions ?
Alors ça se traduit avec beaucoup de partenaires, beaucoup de partenariats, un tissu local très riche en acteurs impliqués sur ces sujets-là, notamment sur les violences. Et on travaille aussi avec les entreprises, avec donc le corps médical, la justice, les forces de l'ordre, les associations, tous les acteurs qu'on peut croiser au quotidien et qui sont amenés à s'impliquer sur ce sujet qui est très transversal.
J'ai pu voir aussi que vous avez aidé le projet de la Maison des Femmes de Normandie-Occidentale que nous avions présenté avec Dorothée Poinsot dans l'émission du 10 octobre dernier. Vous avez organisé une commission des financeurs. C'était important pour vous d'aider ce projet ?
Alors, on ne l'a pas organisé encore. On a annoncé l'organisation d'un comité des financeurs pour que la Maison des Femmes du Calvados, à minima, voit le jour. Donc oui, le but, c'est de mettre toutes les institutions et les organismes qui sont à même de pouvoir financer et soutenir ce projet autour de la table, et donc de déterminer ce qu'on peut faire à partir de l'existant aussi, puisqu'on a déjà un financement de l'Agence régionale de santé sur le volet santé des maisons des femmes, puisque c'est une coordination entre un parcours santé, judiciaire et social. Donc le but, c'est de valoriser l'existant, puisque les associations travaillent déjà depuis très longtemps et elles s'organisent justement pour créer un parcours victime bien coordonné et permettre aux victimes d'avoir un point d'entrée unique pour leur prise en charge. Donc de valoriser tout ça et en même temps d'identifier ce qui nous manque et ce dont on a besoin pour pouvoir justement créer cette maison bien visible avec un lieu unique d'accueil et de prise en charge, mais aussi un rayonnement dans tout le territoire, parce qu'on a un territoire assez rural. Donc on a déjà mis en œuvre avec l'association itinéraire Le Camion des Femmes, qui est un van itinérant qui opère des permanences dans plusieurs lieux du département et qui se développe. Et donc, le but, c'est de développer le maillage territorial aussi pour aller vers les personnes qui en ont besoin.
On va bientôt terminer cette interview. Est-ce que avant, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce qui a été dit ?
Alors, que la lutte pour les droits des femmes et contre les violences continue, mais que c'est important aussi de continuer à parler d'égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les personnes, puisqu'on peut y inclure aussi la cause LGBT. Donc, le but, c'est de continuer à promouvoir l'égalité entre toutes les personnes et de continuer à déconstruire tous les stéréotypes qui empêchent cette égalité.
Eh ben merci Laurie Travers d'être venue nous parler de ce dispositif et pour avoir fait un point sur la situation des femmes victimes de violences économiques au sein de leur couple. On accueille maintenant Aline qui revient ce mardi pour nous présenter sa chronique sur les expressions françaises. Salut Aline.
Salut Bastien, bonjour à toutes et à tous. Puisque notre langue est complexe et qu'elle est pleine d'expressions de toutes sortes, je vous propose de découvrir l'origine de certaines d'entre elles.
Il est vrai que l'on est parfois loin de connaître les histoires qui se cachent derrière les expressions françaises. De quelle expression vas-tu nous parler aujourd'hui, Aline ?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des personnes qui n'ont pas trop envie de trop en faire. Les feignants, les paresseux, on dit qu'ils ont un poil dans la main. C'est une expression qui met un peu mal à l'aise, je trouve, parce qu'on sait bien qu'il est impossible d'avoir du poil sous les pieds ou dans les mains chez nous, les humains. Alors, s'imaginer avoir le creux de la main poilue, c'est un petit peu bizarre.
D'où ça vient, alors, cette idée qu'un poil puisse pousser, comme ça, dans notre main ?
On n'est pas trop sûr de la date d'apparition de cette expression, mais elle apparaît pour la première fois dans le dictionnaire de 1808 de Charles-Louis d'Autel, imprimeur libraire de l'époque. L'expression s'est en fait plutôt propagée dans les milieux ouvriers où on faisait beaucoup de travail à la main. Il y a aussi un contexte assez particulier à cette époque, au XIXe siècle, puisque les idées de Karl Marx se propagent. Les ouvriers qui se salissent les mains pour peu d'argent pointent alors du doigt, avec cette expression, les grands patrons qui s'enrichissent en gardant leurs mains propres.
Et pourquoi, lorsqu'on dit avoir un poil dans la main, on ne parle que d'un seul poil ?
Eh ben, ça viendrait de l'idée où le feignant, au lieu d'avoir un seul outil de travail dans la main, aurait un seul poil. Celui-ci pourrait pousser parce qu'il n'a pas la friction de l'outil qui rendrait les mains lisses. Mais bon, sur l'histoire de l'unique poil, certains n'en tiennent pas compte et font un petit remix d'exagération. Par exemple, avoir un baobab dans la main, avoir une forêt ou bien une touffe dans la main, mais surtout, ce que je serais incapable d'expliquer, c'est avoir une queue de vache dans la main. Enfin, si on prend le fait d'avoir un poil qui pousse dans la main comme signal d'une trop grande fainéantise, on se retrouve aussi face à un problème. Le signal n'arrivera jamais, comme c'est impossible, et les fainéants seront des fainéants pendant bien longtemps. C'est un peu à l'image de l'autre expression quand les poules auront des dents, parce qu'au final, elles n'en auront jamais.
Et j'imagine qu'il n'y a pas que les Français qui trouvent des choses à redire aux paresseux. Est-ce que d'autres pays ont des expressions pour les désigner ?
Eh bien, en effet, puisque déjà, chez les Italiens, on fait simple, vraiment très simple, avec le mot « far niente », qui signifie tout simplement « ne rien faire ». Les Anglais poussent un petit peu plus loin la réflexion en disant « to be work shy », donc avoir une timidité au travail. On est presque gentil avec les fainéants, je trouve, ou alors peut-être que les Anglais sont juste un petit peu ironiques. Mon préféré, le plus original, c'est l'expression des Espagnols. Sermas, floro, que una cortina. Alors moi, j'ai fait allemand LV2, donc je l'ai sûrement mal prononcé, mais les Espagnols l'auront peut-être compris. Ça veut dire être plus mou qu'un rideau. Alors pourquoi un rideau ? J'en ai aucune idée. C'est parce qu'il y avait plein d'autres objets possibles. Mais bon, c'est en tissu, ça vole au vent, alors on comprend assez bien. Enfin, maintenant que beaucoup de personnes travaillent de plus en plus sur l'ordinateur, je pense qu'il faudrait plutôt dire que les paresseux ont des poils au bout des doigts.
Merci Aline pour ta chronique. On te retrouve dans 2 semaines pour une prochaine. Je remercie également Laurie Travers pour être venue à l'antenne. Bien évidemment, merci à notre cher Émile, toujours au poste à la régie. Et puis également, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis pour cette méridienne. On se retrouve demain, même heure, sur la 92.7. La prochaine émission est à 18h ce soir. Vous retrouverez Anaëlle en direct du Moho de Caen pour La Belle Antenne, votre émission d'actualité culturelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.